Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les fondements de la gravitation, en s'appuyant sur une liste de termes assez complète qu'on a reçue. On va explorer comment notre compréhension de cette force a évolué depuis les modèles antiques jusqu'à la physique d'aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de voir les grandes étapes. Comment on est passé d'un modèle, disons, géocentrique, avec la Terre au milieu, et puis tous ces mécanismes un peu compliqués comme les épicycles pour que ça colle?
Pour sauver les apparences, comme on disait.
Exactement. Comment on est passé de ça au modèle héliocentrique et puis aux lois qui régissent vraiment l'univers?
Alors, le moment clé, le vrai changement, c'est Kepler. Ces trois lois, c'est une rupture. La première, la loi des orbites. Les planètes ne tournent pas en cercle parfait, mais suivent des ellipses.
Ah oui, les ellipses. Ça paraît peut-être simple maintenant, mais à l'époque, abandonner le cercle parfait, ça a dû être un sacré choc, non?
Philosophiquement même. Complètement, c'était une révolution. Et les deux autres lois viennent préciser ça. La loi des airs, elle dit en gros qu'une planète va plus vite quand elle est proche du Soleil et plus lentement quand elle s'en éloigne.
D'accord, elle balaie des airs égaux en des temps égaux, c'est ça?
C'est exactement ça. Et puis la troisième, la loi des périodes, établit un lien mathématique très précis entre la durée de l'orbite et la taille de cette orbite, en gros sa distance au Soleil. Kepler, il nous a donné le comment. Il décrit le mouvement.
OK, donc Kepler décrit la mécanique céleste avec une précision folle pour l'époque. Mais pourquoi aller chercher plus loin si ça marchait si bien mathématiquement? Pourquoi cette quête d'une force derrière tout ça?
Parce qu'on voulait comprendre le pourquoi. C'est là qu'arrive la loi de la gravitation universelle. L'idée géniale, c'est de dire qu'il y a une attraction mutuelle entre tous les objets qui ont une masse.
Entre tous, oui, exact.
La pomme qui tombe et la lune qui tourne.
Exactement.
La même loi pour les deux. C'était ça l'audace. Et cette force, elle dépend des masses en jeu, de leur distance. Et il y a cette fameuse constante, la constante de gravitation universelle, G.
Et c'est là qu'intervient l'expérience de Cavendish mentionnée dans nos sources. C'est incroyable de se dire qu'avec une balance de torsion supersensible, il a réussi à mesurer ce G, à peser la Terre d'une certaine façon.
Tout à fait, une mesure fondamentale. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à bien distinguer masse gravitationnelle et masse inertielle.
Oui, celle qui subit et crée la gravité, et celle qui résiste au mouvement. C'est subtil.
Très subtil, et ça ouvre des portes sur la nature même de la gravité d'ailleurs. Mais l'essentiel, c'est l'universalité de cette loi. Elle s'applique aux pommes, aux satellites. D'ailleurs, la liste mentionne différents types d'orbites.
C'est vrai. Circulaire, elliptique, ça c'est pour les objets liés, comme les planètes.
Oui, mais aussi parabolique et hyperbolique, pour les objets qui ont assez d'énergie pour s'échapper, comme certaines comètes. Et puis, quatre pratiques, les satellites géostationnaires immobiles au-dessus de nous.
Mais cette idée d'une force qui agit comme ça, instantanément, à travers le vide, l'action à distance, quoi, ça devait rester un peu mystérieux, non?
Ah oui, c'était troublant. Et pour dépasser ça, on a introduit le concept de champ gravitationnel. C'est une idée différente. La masse ne tire pas à distance, elle modifie l'espace autour d'elle.
Elle déforme l'espace. C'est ça l'idée. L'espace n'est plus juste un fond neutre.
C'est exactement ça. L'espace est structuré par la masse. Ce champ, terrestre ou généré par n'importe quelle masse, il est défini partout. Et c'est lui qui va dicter la force qu'une autre masse, une masse d'épreuve, va subir si on la place là.
D'accord. Et ça mène au potentiel gravitationnel. C'est lié.
Tout à fait. Le potentiel, c'est un peu comme une carte en relief de ce champ. Il nous dit l'énergie potentielle qu'un objet possède juste parce qu'il est à un certain endroit dans ce champ. C'est super important pour comprendre la conservation de l'énergie dans tout ça.
Et logiquement, ça explique des choses comme la vitesse de libération, la vitesse qu'il faut pour grimper cette colline gravitationnelle et s'échapper.
Exactement, pour vaincre l'attraction de l'astre. D'ailleurs, Lalice va jusqu'à mentionner des cas extrêmes ou des applications stratégiques. Le buco nero, le trou noir en italien.
Là où la pente est si raide que même la lumière ne sort pas.
Voilà. Et l'effet Tofionda, l'assistance gravitationnelle ou fronde gravitationnelle, cette astuce géniale où on utilise le champ d'une planète pour accélérer une sonde spatiale.
C'est fou. Donc pour résumer, on part de modèles géométriques pour décrire, on passe aux lois de Kepler qui affinent la description, puis la loi universelle qui commence à expliquer le pourquoi, et enfin le champ qui change notre vision de l'interaction elle-même. Quel parcours !
C'est un sacré parcours, oui. Et peut-être une dernière pensée pour la route. Ce concept de champ, il résout le problème de l'action à distance, c'est vrai, mais il ouvre une autre question vertigineuse. Si la gravité, c'est une modification de l'espace par la masse, quelle est la nature profonde de cette modification et comment cette information, cette influence, se propage-t-elle réellement ?
Ça nous laisse sur une question qui est toujours au cœur de la physique actuelle, j'imagine.
Exactement. Ça nous pousse vers des concepts encore plus fondamentaux sur la nature de l'espace, du temps et de la gravité elle-même. Une histoire loin d'être terminée.